Bonjour à tous et à toutes, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Un rendez-vous compte qui devrait être aujourd'hui particulièrement relaxant et au cours duquel je vais essayer de ne pas me faire envoûter par la voix de mon invité. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Alors Corinne, quelle activité exercez-vous? Quelle activité relaxante exercez-vous qui pourrait peut-être m'envoûter?
Eh bien, je suis sophrologue.
À Saint-Prix.
À Saint-Prix. Et je pratique également, je suis hypnothérapeute, donc je fais de l'hypnose ericksonienne également.
Oh, on va raconter tout ça à nos auditeurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la sophrologie?
Alors, c'est une bien belle histoire, la sophrologie. Ça a été fondé dans les années 1960 par Alfonso Caicedo, qui était un Colombien, en fait, et qui était surtout un neuropsychiatre. Donc, ça vient du domaine médical. Alfonso Caicedo, neuropsychiatre, à l'époque, dans les années 60, c'était pas glorieux, hein, la psychiatrie. Il y avait beaucoup de techniques un peu invasives, on va dire. Et lui, il avait dans l'idée de mettre en place des pratiques un peu plus douces. Donc il a testé ça sur une dame assez âgée qui souffrait d'une forte dépression. Et il a mis en place des pratiques plus douces comme des méthodes de respiration contrôlée, des méthodes de relaxation plutôt occidentales comme la méthode de Jacobson. Il s'est rendu compte que c'était assez utile. En tout cas, ça améliorait son état de manière assez, assez étonnante d'ailleurs. Donc, il a décidé de mettre tout ça en place auprès de ses patients. Et avant ça, il est donc parti étudier en Orient. Il est parti en Inde pour regarder ce qui se passait au niveau du yoga. Et notamment de ce que l'on appelle le pranayama qui regroupe en yoga les méthodes de respiration contrôlée. Il est parti également au Tibet sur toutes les techniques de méditation tibétaine. Donc là, on est plus sur de la, on va dire, la visualisation positive. Il est parti également au Japon, où là, il a récupéré tout ce que l'on appelle la méditation, sur la partie zen. Le bouddhisme zen. Donc, par exemple, les bouddhistes zen pratiquent la méditation marchée. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut voir auprès des prêtres bouddhistes. Ils marchent tout en méditant. Donc, il y a une action de « je marche en conscience ». Et fort de toute cette expérience, il est revenu, il a bâti au fil de l'eau cette méthode qu'on a tendance à appeler le yoga des occidentaux. Donc, qu'est-ce que l'on fait en sophrologie? On fait à la fois de la respiration contrôlée. Donc, on apprend à respirer, ce qu'on ne sait plus faire, nous, aujourd'hui, à notre époque. On pratique des relaxations dynamiques, comme, par exemple, des contractions-relâchements. Ça, c'est Jacobson. Et plus on contracte et plus on relâche, mieux on est détendu au relâchement. On pratique tout ce qui est visualisation positive. Là, on peut aussi penser au docteur Coué, la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Ça, c'est la pensée plutôt positive, où on essaye d'équilibrer ses pensées négatives, ses pensées positives. Plus on a de pensées positives, mieux c'est. Il ne s'agit pas d'être dans le monde des bisounours, mais de pouvoir équilibrer, en fait, sa façon de penser.
Ouais. Alors, Corinne, qui vient vous voir dans votre cabinet à Saint-Prix? Surtout des femmes, peut-être?
Eh bien non, justement. Au début, oui, quand j'ai débuté dans les années 2017, c'était surtout des femmes qui voulaient se prendre en charge, qui voulaient aller mieux, qui souhaitaient un accompagnement pour aller mieux. Et puis petit à petit, sur ces 2-3 dernières années, j'ai constaté que les hommes venaient me voir. Généralement, ils sont beaucoup plus impliqués dans leur accompagnement. Quand ils viennent me voir, c'est que vraiment, ils ont besoin d'aide et qu'ils en prennent conscience. Donc, quel type de personnes? Ce sont souvent des cadres en entreprise, des avocats, des gens qui sentent qu'ils sont à la limite, finalement, du burn-out. À partir du moment où ils en prennent conscience, ils veulent mettre en place des choses pour aller mieux et pour éviter, finalement de passer de l'autre côté, on va dire.
Et je crois d'ailleurs que ça correspond à votre propre expérience professionnelle qui vous a amené à la sophrologie.
Exactement. J'ai longtemps travaillé dans un domaine un peu challengeant au sein d'entreprises américaines, pour ne pas les citer, de groupes de courtage d'assurance où j'étais entourée essentiellement d'hommes, où c'était très challengeant, où il fallait être rentable, il fallait bosser. À l'époque, on ne parlait pas du tout de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie pro, la vie professionnelle et la vie personnelle. Ce qu'on parle en entreprise, aujourd'hui on évoque ce sujet, mais avant ça n'existait pas. Et donc on devait produire et donner tout un tas d'heures à son patron. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir tenir parce que moi j'ai des enfants à la maison. Je dois m'en occuper quand je rentre, j'ai une deuxième journée qui commence. Et pour trouver ce fameux équilibre vie perso, vie pro, je me suis dit, je vais me faire accompagner. Vers quelle pratique ? Je me suis renseignée et je me suis tournée vers la sophrologie. Donc à l'époque, je travaillais à Levallois et la personne qui proposait ça était également psychologue. Et elle m'a suivie pendant 10 séances, mais uniquement sur cette partie sophrologie. Et puis, au fil de l'eau, ça allait beaucoup mieux. Quand je rentrais, alors j'y allais entre midi et deux. Quand je rentrais, tous mes collègues me regardaient et comprenaient qu'il y avait quelque chose de changé en moi. Donc je leur expliquais, je fais de la sophro. Donc l'après-midi, généralement, ils pouvaient se passer et me dire ce qu'ils voulaient. J'étais complètement avec cette espèce de prise de recul sur le quotidien, sur les événements. Et donc je me sentais beaucoup mieux. Donc au fil de l'eau, la sophro ne m'a plus quittée. J'ai continué à pratiquer parce qu'en sophrologie, le plus important pour celui qui est accompagné, c'est ce qu'il fait entre deux séances, qu'il va mettre en place chez lui entre deux séances. C'est pas ce qui se passe en séance avec le thérapeute. Il doit emmener avec lui tous ses outils, moi c'est ce que j'ai fait. Et au fil de l'eau, je me suis aperçue que la vision que j'avais de la vie était bien différente. Alors c'est très progressif, c'est un travail sur soi. C'est un peu comme un contrat qu'on passe avec soi-même. Mais ça en vaut le coup, en fait. Voilà.
Alors, comment se passe le premier contact, la première séance ? Je crois que vous marquez sur votre site, on donnera les références, que cette séance peut être assez longue, prise de contact.
Oui. C'est vrai que la première séance, c'est la séance où on va créer l'alliance. C'est un échange. Donc, on va écouter longuement la personne, pourquoi elle vient. Quelle est sa démarche? Qu'est-ce qu'elle veut pratiquer avec moi? Et puis, je vais lui expliquer ce qu'est la sophrologie. Et puis, je vais lui expliquer ce fameux contrat qu'elle doit passer avec soi-même. Si elle veut aller mieux, il va falloir qu'elle mette en place des choses dans son quotidien. Si elle ne le fait pas, elle ne fait pas de sophrologie, mais elle fait de la relaxation en séance avec moi. Si elle emporte tout ça avec elle et qu'elle se l'approprie quelque part, elle est actrice de son propre changement, et c'est ça qui fera que ça l'amènera vers la réussite, en fait. Donc la première séance est longue, c'est vrai, je prends du temps, on échange, je lui explique. Elle m'explique comment elle fonctionne dans son quotidien, pourquoi elle vient, et elle va énoncer son objectif, c'est-à-dire qu'on part toujours d'un objectif et on va dérouler le fil. On ne peut pas faire de la sophrologie avec « tiens, je veux mieux dormir, tiens, je vais parler en plus ». On ne peut pas tout mélanger. Donc on doit partir d'un sujet bien précis qui a été énoncé dès le départ. Par exemple, je veux me sentir mieux dans ma vie ou je veux avoir plus confiance en moi. On travaille beaucoup sur l'image de soi, la confiance, l'estime de soi aussi qui est importante. Et on va dérouler le fil, donc c'est progressif. La première séance, ça peut durer entre 1h30, 2h. Franchement, j'ai pas de... Ça se fait, voilà. Et ensuite, donc on fait peu de pratique en première séance. Par contre, dès la deuxième séance, là, on fait pratiquement... Alors, on se parle au début, mais c'est beaucoup plus court. Et on pratique à peu près 3-4 relaxations dynamiques. Puis après, une visualisation positive.
Voilà, on reviendra un petit peu sur vos techniques, on pourrait dire, vos méthodes. Mais petite précision, actuellement, vous conciliez votre vie professionnelle et l'exercice de la sophrologie.
Absolument, je suis dans l'échange. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé à pratiquer moi-même pour aller mieux, je me suis dit, il faut vraiment que je partage ça. Je trouve ça tellement génial. Donc, je me suis formée. Je me suis formée à la sophrologie. J'ai fait des spécifications en sophrologie et sport, sophrologie entreprise, sophrologie pour les seniors, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les personnes âgées. Et dans le domaine du sport, la sophro, d'ailleurs ça a débuté dans le domaine du sport, je pense, est très présente. Et j'ai beaucoup appris en faisant cette formation-là. Mais je ne veux pas m'enfermer dans une case. Je veux pouvoir partager avec le plus grand nombre, en fait.
Donc, vous continuez votre activité professionnelle. Oui. Et à quel moment vous proposez de recevoir vos patients? Le soir, un jour précis dans la semaine?
Alors, je travaille à temps partiel. Donc, je reçois le mercredi pour me permettre de recevoir les enfants, par exemple. Je reçois les jeudis et vendredis en fin de journée, le samedi toute la journée et le dimanche matin.
Voilà. D'accord. Nous sommes toujours bien sur IDFM, à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Corinne Esnou, on n'a pas dit encore votre nom, qui est sophrologue à Saint-Prix. Alors, quel est le premier titre musical que vous avez choisi de nous faire entendre?
Alors, je crois que c'est Coldplay.
C'est Coldplay. C'est ça? Alors,
je ne me rappelle plus du titre.
Voilà.
Mais parce que je trouve que, d'abord, c'est une chanson agréable pour moi. C'est quelque chose de plaisant quand je l'écoute. J'ai l'impression justement que je suis en visualisation et que je suis un peu ailleurs. Ouais,
c'est ça. Alors, le titre, c'est « Adventure of a Lifetime ». Cette chanson, elle est accompagnée d'une vidéo qui présente un groupe de chimpanzés découvrant un haut-parleur sous un tas de feuilles. Et les primates découvrent alors le pouvoir de la musique et forment un groupe qui ressemble aux membres du groupe musical. C'est pas mal quand même.
C'est génial.
Voilà, on écoute. Nous sommes toujours bien sûr IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Corinne Esnou, sophrologue exerçant à Saint-Prix. Alors, vous dites aussi sur votre site internet, on donnera les références, que la sophrologie peut être considérée comme une véritable philosophie de la vie.
Oui, c'est vrai. Pourquoi ça? Parce que à la fin de mes accompagnements, en sophrologie, on va jusqu'à évoquer ses valeurs de vie, ses valeurs existentielles. Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Donc là, on est un peu plutôt à la limite de la philosophie. Et j'ai tendance à dire qu'en fait, quand on s'approprie vraiment cette technique, cette pratique, que ça devient en fait une seconde nature, c'est une vraie philosophie de vie. Voilà.
Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu comme client des professeurs de philosophie qui, je pense, seraient des personnages assez rotors?
Non, c'est vrai qu'il y aurait pas mal à dire, mais je les remettrais dans la pratique corporelle.
On va essayer de vous en trouver parmi les auditeurs.
Super, ils sont les bienvenus.
Voilà, avant de revenir plus en détail sur vos méthodes, vos objectifs, vous signalez bien que la sophrologie est un accompagnement et ne se substitue jamais à un traitement médical.
Exactement. D'ailleurs, je dis des clients, j'accompagne des clients ou j'accompagne des personnes qui veulent aller mieux. Mais je ne suis pas médecin, loin de là. Je suis juste là pour faire qu'ils aillent mieux. Et pour autant, ça peut être des médecins qui m'envoient des clients. J'ai souvent eu le cas, soit ce sont des généralistes, soit ce sont des psychologues, soit ce sont des psychiatres. Et récemment, j'ai eu un neuropsychiatre qui m'a envoyé quelqu'un, effectivement.
Alors, vous pratiquez donc la sophrologie. Vous avez parlé de relaxation dynamique, c'est ça ?
Oui.
Donc, qu'est-ce que c'est ? Parce que déjà, pour moi, ça semble un petit peu une contradiction.
Ah, oui, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça. Très bonne question. Relaxation dynamique, c'est... alors, la sophrologie, on parle du conscient. On est sur la conscience de ce que l'on fait. Donc, on revient à sa corporalité, on revient à ses ressentis et ses sensations, en fait. Donc, on va se relaxer en faisant des... Par exemple, on a parlé des contractions, relâchement, en faisant des exercices de respiration contrôlée. Pourquoi on fait ça, en fait ? Parce que quand la personne... Imaginons une personne qui souffre de crises d'angoisse dans son quotidien ou des pics de stress... moi, je vais lui montrer des techniques de respiration qu'elle devra mettre en place juste avant cette espèce de ressenti. Donc, on va analyser à quel moment vous sentez que ça peut monter. Et vous allez mettre en place cette respiration contrôlée juste avant ce pic de stress, de façon à l'évacuer tout de suite. Et plus elle va faire ça, plus son cerveau va prendre l'habitude de faire ça et va lui dire, tiens, dès que ça monte, tu mets ça en place. Et ça te permet de t'auto-gérer, en fait. Donc, la relaxation dynamique, c'est dynamique en quoi ? C'est parce qu'il y a aussi cette idée de conscience. Je mets en place des choses de manière consciente. Et c'est plus dynamique, par exemple, qu'une visualisation où vous restez assis, vous écoutez la voix du sophrologue et vous pouvez partir à la mer, à la montagne, en fonction de ce qui vous parle, de ce que vous aimez. Donc ça, ce sont les ressources de la personne accompagnée. On lui demande en première séance qu'est-ce qui lui fait du bien. Elle peut très bien me dire, moi j'adore la mer, hein, et donc on va visualiser la mer, et ça, ce sera une ressource. Elle le fera elle-même après. Elle pourra partir en visualisation. Moi, là, je peux vous parler, et en même temps, je peux déjà être à la mer sur ma plage préférée en Bretagne.
Ah, c'est pas mal ça.
C'est sympa. Et il y a d'autres personnes. Alors, si par exemple, elle n'aime pas le vide, donc on ne va pas aller à la montagne, donc d'où l'intérêt de me dire dès le départ, qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce que vous n'aimez pas, hein. Ça, c'est très important de ne pas aller se planter et l'emmener dans un endroit où elle ne serait pas à l'aise, comme en forêt. Il y a des gens qui n'aiment pas la forêt parce que ça peut être étouffant. Puis il y a des gens qui adorent aller s'oxygéner là-bas. Donc,
vous êtes très psychologue en même temps, forcément.
Disons que j'ai une bonne écoute, ouais.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Corinne Esnoux, sophrologue à Saint-Prix. Corinne, quel est le deuxième titre musical que vous avez choisi de nous faire entendre ?
C'est pas Silk Sonic. Alors je connais, j'ai écouté sur une radio avec ma fille cette musique, cette chanson plutôt.
Leave the door open. Laissez la porte ouverte.
Et j'adore l'idée de la porte, ouais.
D'accord.
Look too good to be alone. Ooh. My house clean. My pool warm. Just shake.
Smooth like a newborn.
We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in this arm, I'ma leave the door open.
Voilà, nous sommes toujours bien sur EDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Corinne Esnoux, sophrologue exerçant à Saint-Prix. Alors, vous pratiquez également l'olfactothérapie. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Oui. Alors, je me suis formée en olfactothérapie. Je ne le propose pas systématiquement. D'abord, je me suis formée pour moi, Parce que, en fait, ça, je ne l'ai pas dit dès le départ, mais tout ce que je propose à mes clients, je l'ai d'abord testé sur moi. Tout le monde ne peut pas dire ça, je crois. Et si ça marche pour moi, je me dis pourquoi ça ne marcherait pas pour les autres. Après, je leur offre un panel de techniques et ils prennent ce qu'ils veulent bien prendre ou ce qui leur parle le plus. L'olfactothérapie, en fait, ce sont des synergies à base d'huile essentielle. Et alors, j'en ai pléthore, j'ai une boîte avec plusieurs petits flacons. Et ils vont choisir. Voilà, donc je peux l'intégrer dans mes séances de sophro, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ils vont choisir et en fonction, donc ils vont se mettre en relaxation, donc ils vont fermer les yeux, ils vont sentir l'odeur de chaque flacon. Et puis ça va leur parler, puis on peut partir tout de suite sur une visualisation. Alors ils vont choisir, il y en a un qui ne leur parle pas, il y a une odeur qui leur plaît. Donc c'est un peu une relaxation olfactive finalement que je leur propose. Pour ça, ça peut leur rappeler des souvenirs. Donc on va partir dans ce souvenir-là, des souvenirs agréables. Et on va revivre toutes ces sensations positives pour les faire renaître à l'intérieur.
Voilà, un peu la Madeleine de Proust, mais oui. Question avec le nez.
Si exactement.
Oui. Alors, vous pratiquez aussi l'hypnose.
Oui.
Alors là, ça m'intéresse beaucoup. Comment ça se passe et comment ça se déroule et quelles sont les limites, on va dire, que vous fixez vous-même?
Oui, alors, la sophrologie a ses limites aussi. Et quand j'ai vu que j'avais ces limites-là, je me suis dit, il faut que je me forme à d'autres pratiques. Et pour moi, dans toute logique, la pratique qui est complémentaire par rapport à la sophro, c'est l'hypnose. Je me suis formée donc, en 2022 à l'hypnose ericksonienne, qui est la plus connue. Alors l'hypnose, on travaille sur l'inconscient. Ce qu'on ne peut pas faire sur le conscient en sophro, ben, je peux le proposer en hypnose. Après, ce sont les clients qui choisissent. S'ils ne veulent pas faire d'hypnose, ils ne feront pas d'hypnose. S'ils ne veulent pas du tout de sophro, et ça arrive, on ira sur l'hypnose. Ils sont vraiment, c'est eux qui choisissent, c'est eux le maître dans leur changement. Donc l'hypnose, on travaille sur l'inconscient. On peut, alors généralement, c'est lorsqu'il y a des traumas d'enfance. Alors le terme trauma, un événement peut être un trauma pour une personne, être vécu comme un trauma pour une personne, et pour une autre personne qui vivrait le même événement, ça ne serait pas un trauma. Donc un trauma, il n'y a pas d'échelle finalement, il n'y a pas d'échelle pour dire ça c'est un gros trauma ou ça c'est un petit trauma. On parle de trauma. Donc les traumas d'enfance ou les traumas récents, on va dire, autant les traiter rapidement. On travaille sur la gestion du poids, l'image que l'on a de soi, la confiance en soi. On peut travailler aussi, on peut travailler sur les mêmes choses qu'en sophro, mais on le fera différemment. Et puis parfois, c'est vrai que moi je fais un pont entre les deux. Quand je vois qu'avec la sophro, j'ai mes limites, je peux proposer un accompagnement en hypnose.
Alors un accompagnement à base de votre voix en fait. C'est vous qui parlez, non? C'est ça?
Oui, oui, oui. En hypnose, s'il y a moins d'action finalement, c'est toujours l'hypnothérapeute qui va parler. Alors l'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose qui permet un peu... un peu plus permissive, on va dire. C'est quand même la personne qui va aller là où elle a envie d'aller, de toute façon. Et donc, oui, c'est la voix. On va saturer le conscient, de façon à le mettre de côté. Le conscient, c'est un peu le petit saboteur qui vous dit, oh, bah, de toute façon, toi, tu ne sais pas faire, de toute façon, tu es nul. Toute cette petite voix qu'on a toujours, parfois, en fonction des situations, on va le mettre un peu de côté. Et on va aller voyager vers l'inconscient. L'inconscient, c'est un peu comme une grande bibliothèque de ressources. C'est toutes les savoir-faire, toutes les expériences qu'on a accumulées quelque part, qu'on a un peu oubliées, les savoir-être, les compétences, tout ça, c'est d'un côté dans son inconscient et parfois on a tendance à l'oublier. Donc en saturant le conscient, on va chercher toutes ces belles ressources et les réintégrer à l'intérieur et pouvoir prouver au conscient que tu vois, tu sais faire, tu l'as déjà fait. Tu vois, tu es capable de faire. Et plus ça va, plus l'inconscient, finalement, c'est une espèce de... C'est un équilibre qu'on va mettre entre les deux.
D'ailleurs, je crois que sophrologie, c'est justement... l'étymologie, il y a une question d'équilibre et de bien-être, en fait.
C'est l'équilibre au niveau du mental, voilà.
Alors, vous pratiquez aussi une technique du 3T, trauma, Tapping, technique.
Technique, le tiki-tiki.
Qu'est-ce que c'est ça ? Oui.
Ah, ça, c'est une technique très pragmatique qui peut, que l'on peut utiliser en cas de stress, pic de stress tout de suite. Donc, c'est du tapping, en fait.
Alors, tapping, c'est ?
Le tapping, c'est, voilà, on tape des points. C'est un peu l'idée de l'acupuncture, en fait. Mmh. C'est des points précis que l'on va taper.
Avec les doigts.
Avec les doigts. Et qu'on, donc, on s'auto-traite. Hein. Donc, je vais montrer à la personne. Donc, je ne fais pas du tout. Il n'y a rien de tactile dans tout ce que je propose. Mais je lui montre comment elle peut faire. Et que quand elle a ce pic de stress, hop, elle y va. Alors, elle tape. Il y a tout un tas de trucs. Et en même temps, on se dit une phrase positive pour remettre un peu de la conscience dans son contexte.
Voilà, nous sommes toujours bien sûr IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Corinne Esnou, sophrologue à Saint-Prix. On va écouter le troisième titre que vous souhaitiez entendre, Clara Luciani, La Grenade.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que c'est un peu le combat des femmes, c'est, voilà, et que ça me correspond aussi, ça.
Très belle chanson. Retrouve à nouveau Corinne Esnou, sophrologue et hypnotiseuse, on dit comme ça ?
Non, on dit, alors moi je suis praticienne en hypnose ericksonienne,
ah oui.
Parce que le terme hypnothérapeute, thérapeute est toujours un terme protégé, donc je ne le prononce pas, enfin donc je suis praticienne en hypnose.
Donc notre émission se termine presque, ça passe très très vite, un dernier mot, un souvenir peut-être marquant, un conseil que vous pouvez donner aux auditeurs ? Chaque jour.
Eh ben, le meilleur conseil que je pourrais évoquer, c'est de, si vous sentez que vous n'allez pas bien, qu'il faut vraiment mettre en place des changements, venez en sophrologie déjà, ça peut vous aider, testez. Et puis un souvenir aussi. On parlait des hommes l'un des tout premiers qui est venu me voir, c'était un sportif de haut niveau qui a eu un accident de la vie. Et donc, quand un sportif de haut niveau, quand ça ne va pas bien et quand tout tombe, quand il ne peut plus pratiquer son sport, c'est quelque chose de dramatique. Donc, il a eu un problème cardiaque, en fait. Et c'est son kiné qui lui a dit d'aller voir un sophrologue pour reprendre le goût de vivre. Et le goût de vivre, il n'y a que ça de vrai, en fait. La vie, c'est merveilleux.
C'est un joli dernier mot. Corinne, comment peut-on vous joindre ?
Alors, je suis affiliée à Médoucine. Médoucine, c'est un peu l'équivalent du Doctolib, mais pour les thérapeutes, pour les praticiens en médecine, en pratique complémentaire, on va dire. Donc, on peut me trouver facilement en tapant Corinne Esnou, E-S-N-O-U-L-T, Médoucine, et vous avez accès directement à mes techniques, à mon profil, à ce que je fais, ce que je propose, et puis mon agenda également.
Voilà, mais je crois que vous pouvez éventuellement vous déplacer à domicile.
Oui, tout à fait. Pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne sont pas véhiculées et qui ne peuvent pas se déplacer, je peux aller les visiter et les aider.
Voilà, notre émission est terminée. Merci Corinne. Alors un petit bonjour amical à Tom et Ilona, bien sûr. Je n'ai que des bons souvenirs avec eux.
Merci beaucoup.
C'était Rendez-vous compte, une émission présentée par Didier sur IDFM. Une émission que vous pouvez retrouver, bien sûr, comme toutes les autres en podcast, sur le site de la radio. À la semaine prochaine, même heure, même adresse. Culture, jeunesse, solidarité, citoyenneté, environnement. On fait le plein dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment.